Bonjour à tous. Vous écoutez la radio Queer as You et pour ce nouvel épisode de Culture Queer, c'est moi, Jérôme, qui ai le grand plaisir d'accueillir Michaël Délis. Alors, il est comédien, metteur en scène, scénariste et écrivain. C'est en allant voir un des trois volets de sa trilogie autobiographique, La fête du slip ou le pipeau de la puissance, actuellement au théâtre de la Scala, que j'ai ressenti une urgence, celle de vous inviter à découvrir cet artiste hors norme. Bonjour Michaël.
Bonjour, quelle introduction, merci beaucoup.
Je t'en prie, est-ce que tu peux un peu te présenter? Je donne carte blanche aux artistes qui viennent, donc toi aussi tu l'as cette carte blanche.
Eh bien, je dirais que je suis, pour reprendre tes mots et les synthétiser, un intermittent polymorphe qui crée depuis maintenant 20 ans. Formation de comédien, de danseur, passé par la prépa littéraire et les études de lettres. Donc une sensibilité à l'écriture qui m'a permis d'épanouir aussi cet artisanat. Et je compose et je crée des spectacles depuis une grosse quinzaine d'années avec ma compagnie. Et je bosse pour plein d'autres structures en tant que pédagogue aussi. J'enseigne à la fac. Et voilà, c'était des journées, des semaines et des mois extrêmement denses et d'une grande joie.
Oui, effectivement, tu m'avais dit en fait que tu étais venu au théâtre un peu par hasard, c'est-à-dire c'était à la fac, tu avais vu qu'il y avait des cours de théâtre et c'est comme ça que tu as mis le pied à l'étrier, c'est bien ça?
C'était même, c'est la version presque arrangée polie. En vrai, j'étais à la fac effectivement à Paris 4 et il y avait à l'époque sur les cabines téléphoniques, ce qui déjà dit un peu mon âge, des petits fagnons devenaient une star et faisaient un book. Donc c'est en fait par ça, c'est une entrée par la faille narcissique pour réparer un peu l'ancien gros raillé homo de province que j'étais. Et donc je suis allé faire ces photos, j'ai commencé derrière à démarcher, j'ai fait une figuration, un petit tournage et ensuite j'ai rencontré des comédiens qui m'ont dit mais fais une école, t'as une bonne énergie. Et j'ai tenté ça et j'ai découvert beaucoup de plaisir au plateau et avec cet exercice-là du théâtre et tout ce que ça provoquait de cathartique, de libérateur, d'émancipateur. Donc c'était merveilleux. Mais c'est vraiment par une petite porte d'entrée totale narcisse, quoi.
Ok. Bon, alors moi, c'est en étant allé voir La fête du slip ou Le pipeau de la puissance que j'ai compris que tu t'attaquais à des sujets, en fait, dont on parle pas ou peu. Et là, il s'agit notamment de cette nécessité de bander pour être un homme.
Oui, tout à fait. En fait, cette trilogie, elle qui s'appelle la trilogie du troisième type, elle explore le masculin. Et donc, j'ai fait un premier volet qui questionne le genre et toutes les injonctions à être un homme, un vrai, quand depuis l'enfance, on te renvoie que t'es un faux, que t'es pas du bon côté, parce que t'es pas assez gaulé, pas assez viril, pas assez fort, pas assez performant. Et une fois que j'ai fait ce volet-là, je me suis rendu compte que le chapitre du masculin était un continent inexploré. Moi qui avais lu Simone de Beauvoir et de nombreuses autrices fondatrices sur la pensée du féminisme, dès lors qu'on veut penser le masculin, il n'y avait pas grand matériau. Et donc à l'issue de ce premier volet, j'ai voulu continuer l'enquête et donc j'ai fait un deuxième volet qui s'appelle donc La fête du slip ou le pot de la puissance, où il était question d'interroger la performance. Notamment avec cette obsession de la verge dure dressée, avec la fantasmatique de l'érection, du priapisme, alors que nos bites sont molles 99% du temps. Donc j'ai dit pourquoi est-ce qu'on ne renverserait pas le paradigme en mettant la tendresse au goût du jour. Et donc c'est une grande ode à la vulnérabilité, et pour essayer de comprendre voilà, d'où procède cette névrose-là d'être dur, performant, efficace, alors que c'est plus épuisant que l'inverse.
Tout à fait. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu incarnes toute une palette de personnages. Ça m'a d'ailleurs rappelé un petit peu Guillaume Gallienne dans Les Garçons et Guillaume à table. Parce que tout comme lui, tu joues sa mère. Oh, tu joues ta mère et non pas sa mère. Quoique ça pourrait être drôle. Ouais, oui, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques petits rapprochements à faire. Tu joues les gens de ta famille, ton psy, ton médecin et j'en passe. Est-ce que c'est pas un peu éprouvant ça, un seul en scène à jouer tous ces personnages?
J'avoue, moi je suis venu au seul en scène très tard parce que pour moi le théâtre c'était le groupe, la troupe, et donc j'ai toujours beaucoup de monde autour de moi et que j'avais peur de ne pas pouvoir assumer ça et ni d'être forcément expert dans l'exercice. Mais quand j'ai commencé à faire le premier volet, j'ai adoré l'exercice justement de passer d'un personnage à l'autre. Il y a quelque chose de très physique, sportif. Où on est vraiment dans un instant présent très puissant et donc c'est vrai que c'est devenu complètement addictif, d'où aussi la logique de trilogie. Et d'ailleurs là j'écris une autre pièce avec 8 personnages, mais il y aura à nouveau une autre trilogie de solo en scène parce que je trouve l'exercice extraordinaire.
En sachant que tu as peu de matériel, hein, parce que moi j'ai vu, c'est t'as 4 néons. Bon, bien sûr, il y a toute la technique autour, mais t'as cette performance quand même d'être seul en scène avec notamment t'as ces néons que tu utilises aussi bien en croix, en étagère. Enfin, bon, t'es fort pour toutes ces transformations. Alors, en fait, moi ce que je peux dire, c'est que tu te mets à nu ou plutôt en slip et tu vas aborder ce qui fait souvent d'un gay un homme accompli, mais tu donnes un coup de balai à ces sujets devenus, on va dire, des poncifs. C'est-à-dire que c'est le comptage des plans cul, des allers-retours chez le médecin pour soigner une IST, tout ça en urgence, bien sûr, comme on a tous connu, et bien d'autres. Et tout ça pour aller, en fait, à la découverte de ta fragilité, du tendre. Bah, c'est quasiment exotique, cette façon de faire, aujourd'hui.
C'est vrai que c'est un petit peu à rebours des exigences contemporaines, mais c'est vrai que c'est très empirique, en fait, étant passé par, comme beaucoup d'homo, les applis, l'hyperconsumérisme, la PrEP qui est venue révolutionner le rapport au corps en nous détendant sur le rapport au sida, mais en même temps en névrotisant encore plus le rapport à la chair. Avec en plus les dérives qu'on sait aujourd'hui du chemsex, qui fait que malgré tout, on a beau avoir une sorte de levée d'interdit, on vient nous se remettre bâton dans les roues en se collant des merdes dans le sang et en créant de la dépendance, de la dépression et parfois du suicide. D'ailleurs, c'est ce dont je parle dans un autre recueil nouvelle, où comme si le plaisir devait être fatalement, pour les homos, lié à quelque chose de funeste et de triste. Bon, ça c'est un autre chapitre. Mais c'est vrai que du coup, je voulais partir de ce constat-là, que qu'est-ce qu'on fait là, de cette accumulation, avec cette réalité que, à la fin du mois, quand t'as baisé 75 personnes, t'es plus seul que seul, et qu'en fait, fondamentalement, l'outil, il peut être super si on le réenchante, mais globalement, j'ai quand même l'intuition que le gros du gros, on est quand même là pour avoir des histoires, mais qu'on sait pas dire ça. Et qu'on est tous des amoureux en puissance, mais qu'on se fait avoir par le consumérisme et ce truc-là de la consommation et du tableau de chasse et de l'accumulation. Alors que fondamentalement, je pense qu'on est plus joyeux et content d'avoir quelqu'un à qui faire des câlins et des bras pour nous cajoler 2-3 soirs dans la semaine que de se faire déglinguer ou péter le cul de 40 000 personnes en l'espace d'une journée.
Ouais, et d'ailleurs, moi, ce que tu m'as dit, on s'est rencontrés juste avant, bien sûr, tu m'as dit baiser gay, c'était baiser chiant, grosso modo. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ?
C'est-à-dire que il y avait quelque chose que je trouvais d'hyper stéréotypé dans les scripts sexuels qui sont hyper imprégnés de porno. C'est des choses que aussi j'analyse dans le spectacle parce que une sorte de gym rigoureusement la même avec en plus tous des codes en amont, pénétrant, pénétré, on féminise les pénétrés, la passivité est forcément la chienne ou la salope. Donc déjà qui viennent raconter un imaginaire complètement tragique du rapport au corps et à l'autre et au genre aussi. Et aussi parce que il y a quelque chose où on doit faire du sport, de la gym, et à la fin ça finit par une sorte de faciale, et tu te dis mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ce rituel, est-ce qu'on peut pas se raconter autre chose, et est-ce qu'on peut pas aussi explorer l'endroit du génital, enfin on a un corps qui est immense, tout bourré de capteurs sensoriels et l'érogène est absolument partout. Donc c'est vrai que je trouvais ça un peu ennuyeux et un peu triste. Et j'ai lu un bouquin passionnant qui s'appelle « Refuser d'être un homme » de John Stoltenberg, qui est une référence importante du spectacle, où il analyse le porno et le porno gay notamment, et où il dit que le porno gay est encore plus hétéro que les hétéros parce que c'est que des mecs sur baraque avec des bites énormes qui ne font que se défoncer sans aucune espèce de créativité et d'imagination, et que ça raconte un rapport au corps, à la chair et à l'autre qui est quand même assez rapidement ennuyeux et triste. Et du coup, même dans ce rapport consumériste, en fait, on fait que reproduire une sorte de schéma qui est pas vraiment approprié. Et donc on s'emmerde, enfin on ne rencontre pas l'autre. C'est ça que je trouve triste. Et moi, c'est vrai que j'avoue que je mettais un point d'honneur à toujours parler, échanger, rencontrer. Ce qui fait que ça brouillait presque les pistes parce que les nombres de mecs étaient déconcertants en disant mais ah, on est en train de tomber amoureux. Je dis non, en fait, juste on discute. Mais on a tellement chassé le langage du rapport au corps qui a une sorte de dissonance complètement dingue, alors que c'est le minimum syndical quand on se met à ce point à nu, c'est de rencontrer l'autre et de donner son prénom, dire ce qui nous intéresse, et à minima se remercier à la fin du coït.
Ouais, bah oui, je valide, hein, on l'a tous vécu. Alors moi, ce que j'aime, c'est qu'on apprend beaucoup de choses dans ton spectacle, et moi j'ai notamment appris, parce que t'as énormément travaillé, cette histoire du tribunal de l'impuissance. Tu peux nous en parler ?
Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai fait le premier volet, j'ai lu un bouquin extraordinaire de Olivia Gazalet qui s'appelle « Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes ». Et dans ce livre-là, elle parle notamment, sur un moment sur l'obsession de l'érection, elle parle du tribunal de l'impuissance. Et il se trouve qu'il y a un livre que là-dessus que je suis allé lire pour travailler ce spectacle-là, qui rapporte un fait historique qui fait que de 1550 à 1791, il y avait un tribunal que pouvaient convoquer les femmes pour casser un mariage en convoquant leur époux devant un jury d'ecclésiastes, ils étaient une dizaine, pour attester de la puissance ou pas de l'homme incriminé. Pour ce faire, il y avait deux modalités. Soit on inspectait le corps de l'homme, ce qui pouvait suffire en disant « bon, les testicules ne sont pas sortis » ou « la verge est trop courte », enfin des choses complètement aberrantes. C'est des mots là que je sors, c'est vraiment le verbatim qu'on lit, qui sont des rapports de procès d'époque. Et quand il y avait des doutes, on allait jusqu'au congrès. Et le congrès, c'est un coït public devant 10 personnes qui viennent observer, qui viennent contreposer les bourses derrière les testicules, qui viennent voir s'il y a bien eu intromission, éjaculation, et qui à l'issue de ça décrète si oui ou pas l'homme est impuissant ou pas. Et il y a un cas d'école, j'ai pas tout spoilé, donc qui est le baron d'Argenton, qui a fait beaucoup de bruit et qui est une aberration, et qui quand tu le lis est tellement savoureux et hallucinant que tu te dis bon, okay, là j'ai une scène théâtrale qui est extraordinaire. Donc c'est vrai que j'aime bien dans mon travail toujours agrémenter de faits historiques, de données scientifiques pour dépasser juste la réflexion un peu intimiste et nombriliste et en faire quelque chose d'universel qui puisse concerner le plus grand nombre.
D'ailleurs moi je l'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'on ressort avec quelque chose quoi. On se dit tiens j'ai appris un truc, ça donne envie de lire, ça donne envie d'aller se cultiver sur le sujet. Alors en fait moi quand je peux même dire que quand on sort de ta pièce on peut avoir envie d'aller coucher les menhirs, on peut envie d'aller border la tour Eiffel, lui souhaiter un bon dodo pour voir un petit peu le monde sans cette notion de compétition hein, qui est toujours présente. Alors j'avais d'autres questions, mais ce qui me semble important, parce que moi j'ai envie que les gens aillent te voir, t'es jusqu'à quand à la Scala là ?
Alors là on est jusqu'à mi-avril, mi-fin avril en fait, on fait deux séries de trilogies, après les spectacles sont tournés là un peu partout en France, on part à La Réunion, on part à Genève, on part à Lyon. L'année prochaine, des dates sont tombées à Toulouse, à Cherbourg, près de Béziers. En fait, jusqu'à 2027, il y a plein de dates. On sera à Avignon tout cet été, à la Scala Provence, vers 17h30, je crois. On va jouer les trois spectacles successivement, un jour différent. Il y aura sans doute d'autres suites, tout ce qui se passe est très très beau. Donc pour le moment, je savoure, mais si c'est pas la Scala Paris, il y a de la tournée. Et Scala Paris, du coup, il reste en gros deux dates de chaque, donc 6 dates en tout. Le premier dans la grande salle, donc il y a encore un peu de place, parce que c'est 550 places. Les deux autres sont dans une salle de 160, et c'est déjà bien rempli, donc il faut un peu se presser. Mais bon, j'ai des intuitions qu'il y aura d'autres trucs.
En tout cas, moi j'ai une sœur qui t'attend de pied ferme, parce qu'elle t'a loupé quand t'es passé à Grand-Quevilly. Oh, elle me dit, mais il repasse quand ? Elle a voulu venir à Paris, elle pouvait pas. Et donc là, elle a sauté de joie, parce que je lui ai dit que tu jouais la trilogie carrément. Ouais. Donc elle m'a dit, ah super, je vais pouvoir y aller. Voilà, donc tu es très attendu.
Ouais, trop chouette, je suis ravi. C'est vrai que Grand-Quevilly, ville gérée par un maire adorable, et les directeurs du théâtre sont merveilleux. Effectivement, on a fait le premier volet l'an dernier avec des ateliers en rencontrant des élèves. Et donc, comme ça s'est hyper bien passé, on a proposé et signé une trilogie pour l'année prochaine, je crois.
Super. Mais il y a aussi ton livre.
Oui, c'est vrai.
Tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, alors en fait, vraiment, le livre était pensé un peu comme un prolongement de la fête du slip et du pipeau de la puissance, justement, sur ce rapport au désir. Et typiquement, on parlait des imaginaires un peu dans la sexualité. J'avais été participant à un stage d'écriture érotique, parce que c'est des sujets que je travaillais pour un autre projet sur les sexualités. Et j'ai adoré, on a tous accouché d'une nouvelle érotique, j'ai adoré l'exercice. Et donc, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose aussi à raconter dans le masculin et le désir. Parce que moi, étant un gamin né dans les années SIDA, avec une construction sur la sexualité étant une sorte d'équation plaisir égale mort, protection, défense, donc il y a un rapport très particulier à ça. Et la littérature que je découvre, c'est Guibert, c'est Dustan, c'est ce qu'en dit Foucault. Donc c'est toujours le cul qui est en sous-sol, planqué, la maladie, la souffrance, le cruising, l'humiliation. ce qui a existé, ce qui historiquement est hyper important, ce qui fait que oui, il y a eu des combats et des avancées, merci à tout ça. Mais c'est vrai que c'était très dissonant par rapport à ma sexualité à moi, qui était quand même plutôt très joyeuse, même quand elle était consumériste, où c'était ludique, drôle, sympathique, curieux, pluriel, et que j'avais envie de donner à lire ça aussi. Et donc j'ai fait une huitaine de nouvelles qui sont plus ou moins tirées du réel et qui sont pas qu'avec du cul pénétratif, qui sont deux mecs qui se frôlent dans un train et qui arrivent à jouir juste de ça, c'est un plan cul dans la forêt dans un camp naturiste, c'est un mec qui veut justement pas de rapport charnel et que ça passe par de l'intellect, c'est un truc plus blagueux et verbal avec un concours de justement de sorte de slam érotique. Et il y en a une autre qui est s'appelle La Manifeste du Marcheur, où c'est du cruising, et où on, justement je voulais aussi rappeler tout cet ancrage-là, justement dur et violent. D'ailleurs, si tu veux qu'on lise un extrait, c'est un extrait de ça que j'ai retenu, justement pour dire que quand même la jouissance des homos, c'est quand même un dossier, quoi.
C'est justement ce que j'allais te demander, si tu voulais bien lire un petit extrait, s'il te plaît, Michael.
Quel art de la transition!
Alors ça s'appelle La sensualité des PD, donc de Michael Delis, hein, bien entendu, ou La peau grande ouverte.
Exactement.
Je te laisse le micro.
Ouais, super. Le manifeste du marcheur. Je remonte la rue de Rivoli. Il y a dans le ciel ce gris laiteux qui annonce les ondées timides. La chaleur semble faire une trêve depuis la tempête d'avant-hier. 43 degrés dans l'atmosphère sans discontinuer pendant 3 semaines. La violence ne pouvait céder qu'à elle-même. Je croise peu de passants sur le trajet, c'est l'heure du dîner. Ma panse me mène loin des terrasses qui grouillent et des quais qui se pique-niquent. Je choisis toujours les grands axes. C'est ainsi que pensent les filles, les PD, les Arabes. C'est ainsi qu'est régi le GPS minoritaire. Waze et ses raccourcis, c'est pour la majorité consacrée. Je dépasse la place Saint-Opportune. Une voix comme un sifflement part de l'auvent du métro. Je porte un short très short. Un short qui, s'il montre des cuisses d'homme, devrait pour le commun n'être porté que par des femmes. Comme si être pourvu de testicules vouait à la macération. Si je pouvais, je marcherais nu. Le confort devrait toujours l'emporter sur la déco, comme sur le convenant. C'est cette tenue-là que siffle une gorge grasse. C'est pas vraiment sifflé d'ailleurs. Je cherche dans la mémoire mon livre d'enfant sur le cri des animaux. Celui des porcs, c'était le grognement. Ça dure. Je ferme mes oreilles et revais mes œillères pour continuer d'avancer. Je pense, ils ont tué mes sens, les nôtres, à moi et aux miens. Je poursuis à voix haute comme pour faire bouclier. Il a fallu depuis la prime adolescence, l'enfance pour certains, devenir sourd à leurs injures, à leurs huées, à tous leurs aboiements inquiets. Il a fallu se rendre aveugle à leurs grimaces, à leurs doigts levés, leur langue qui dégueule cette glu grivoise pour railler. Il a fallu faire cécité comme d'autres firent sécession pour ne plus voir leurs narines qui se dilatent afin de chier leur dioxyde de mépris. Il a fallu épaissir la peau en cuir, en maille, en blindage triple épaisseur comme le PQ Premium, celui qui coûte cher, pour ne pas sentir le calleux de leurs mains au cul, les tétons pincés pour faire mal, les claques dans le dos du crâne tout au fond du bus, dans la cour de récréation, dans la rue qui est à tous, mais jamais à nous. Il a fallu renoncer au goût dès les premiers crachats de fiel pour brider ces haul-cœurs qui terminent en dégobillis, et ne pas vaciller sous l'odeur obsédante du rejet. C'était ça ou la mort. La discrimination impose à qui l'a subi une anesthésie générale. Défunt ou défait, tu choisis. Ils étaient quoi? 4? 5? Le mec en bande démultiplie la taille de sa queue. Le mec en bande surbande et mitraille autrement plus dur. Peut-être qu'ils n'étaient que deux, mais ils n'étaient sûrement pas seuls. Seul, l'homme, même énervé, se tait. Ils sont comme ça à agir, des centaines de milliers. C'est vers cela que je marche, bite en tête, rue du Louvre. Jeanne d'Arc apparaît sur sa monture d'or. Jean-Marie beugle, au secours. Les grumeaux de sa voix font comme des morceaux de yaourt dans les tympans. Je visualise sa gueule pirate et son œil poché par la haine. J'enrage quand je ne tremble pas. En secret, parce que ça ne doit pas se voir, cela non plus, qu'ils ont tué l'insouciance. Rayer la légèreté du vocabulaire. Le bas-ventre grouille dans une tourbe indistincte, des ingrédients qui n'ont rien à foutre dans la même marmite, hormones en fusion, nodules de nausée, le paradoxe pour Lian. J'avale comme on encaisse, la mère de la colère rêve encore de sucré. C'est jamais anodin un PD qui jouit. Parce qu'un PD qui jouit, c'est d'abord un PD qui parvient à jouir. C'est-à-dire qui trouve le cadre, qui a gagné le courage, forcé la permission, a supposé qu'il est d'abord acquis de ne plus se détester comme on le déteste. Nous apposons des majuscules à chaque orgasme, du gras aussi, pour dire « ça y est, enfin, cette fois, j'ai réussi ».
Magnifique. Enfin, vraiment, là, moi, tu viens de me toucher. ouais, t'as une écriture très incisive. On peut dire que on sent que t'as fait lettres dans tes études. Ça, c'est indéniable. Oui, ça se sent. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, il faut absolument aller voir les trois spectacles ou un spectacle. Enfin, il faut vraiment aller voir Michael Delis. Et pour le suivre, j'imagine qu'on peut te suivre sur Instagram, par exemple, et bien d'autres moyens.
Tout à fait, je suis une vieille personne, donc du coup j'ai Facebook et Instagram, je suis arrêté là, j'ai pas les autres réseaux, Michael Delis ou Delis Michael, je sais plus dans quel ordre, et puis un site internet, quelqu'un m'a fait une page Wikipédia, et j'ai d'ailleurs vu que quelqu'un a, parce qu'on peut rajouter des choses quand même très drôles, et donc sur vie privée, il n'y a qu'une phrase qui a été mise qui est « il est ouvertement homosexuel ». Bon, comme ça, il n'y a pas de débat, mais je trouvais ça étonnant qu'on vienne raconter ça d'abord. Donc ma vie privée est celle-là. Et on peut suivre aussi sur les sites des théâtres, la Reine Blanche qui me produit, la Scala où je joue. Et puis voilà, il y a plein de... Et puis il y a beaucoup de presse qui relaie aussi les informations. Donc je suis très gâté pour être relayé.
Bon alors, soyez nombreux à aller voir tout ça. Je te remercie, Michael, d'avoir accepté mon invitation. Je l'ai fait vraiment comme ça, via Instagram, parce que j'ai pas osé aller te voir après ton spectacle. Tout le monde était en train de te féliciter. Je me suis dit, bon, on va peut-être pas casser l'ambiance. Mais en tout cas, je te dis vraiment merci, parce qu'il y a peu d'artistes qui ont cette démarche d'accepter une invitation comme ça, qui tombe de nulle part.
Avec un immense plaisir, et j'en profite sans flagornerie pour féliciter le boulot que vous faites, le site, l'asso, cette radio, c'est remarquable, c'est important. Donc merci à vous pour la communauté et les autres, les alliés.
Merci Michael. Ce nouvel épisode de Culture Queer se termine. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous en savez bien plus sur Michael Delis. Bien entendu, si cet épisode vous a ému, vous a plu, je vous invite à le partager. Beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, merci à vous et à bientôt pour un prochain épisode sur la radio Queer As You, bien sûr.